hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy, banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Ses bras et l'embrasse sur les lèvres.
« Je suis heureux que tu sois de retour. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?»«
J'étais malade. Mal au ventre, nausée, maux de tête, vertige. J'avais des visions et j'avais froid. Et une envie folle de fumer. »
Jean lui sourit, le prend à l'épaule et lui dit « Viens. » Et l'allonge à terre. Se met à ses côtés et prépare deux pipes. Guillaume se sent revivre, ses frissons disparaissent, il a de moins en moins froid. Il est tout à fait bien et a envie de parler, parler. J'ai rencontré par hasard un jeune élève du lycée Henri IV. J'en étais fou, ou plutôt, j'étais vraiment fou de lui, si tu savais. C'était avant de te connaître. Je l'attendais à la sortie du cours. Et la seule fois où je l'ai accosté, ça a été une catastrophe. Je l'ai perdu à jamais. Je n'en ressens aucun regret. Rien. Juste un souvenir amer. Mais c'est tout. Maintenant, je suis bien avec toi. Jean lui sourit.
Moi aussi, je suis bien avec toi.
Et il l'embrasse sur les lèvres. Les jours passent, Guillaume, pour être tranquille, et garder sa pension, a repris ses cours, mais il passe une grande partie de ses journées chez Jean. Ils fument plus qu'ils n'écrivent. Jean supporte mieux l'opium que Guillaume. Et il ne reste pas inactif. Il dessine des dessins qui illustrent des livres rares, fait quelques poèmes courts, tandis que Guillaume ne peut rien faire. Un soir, Jean et Guillaume sont invités chez une princesse russe pour une soirée. Elle ne les connaît pas, mais elle a entendu parler de ce couple un peu fou. Et comme elle est excentrique elle-même, elle aime en recevoir chez elle. Elle les a invités à une soirée dans son hôtel particulier du boulevard Saint-Germain. Guillaume n'aimerait pas y aller. Ils sont dans la chambre de Jean. Je ne la connais pas. Puis les soirées de ma mère me suffisent. En se préparant, Jean lui dit « Ce ne sera pas la même chose. Elle a l'esprit artistique. » Et puis, « Elle vient d'où, cette princesse ? On ne sait rien d'elle. » Jean lui dit, tout en mettant ses chaussures.
Je me suis renseigné. C'est une vraie princesse russe. Très belle, 25 ans, intelligente. Que lui demander de plus ? Allez, je suis prêt. On y va ? Guillaume soupire. Allons-y. Et ils y vont.
Lorsqu'ils arrivent, l'hôtel est plein de monde, toutes les pièces illuminées. Un orchestre joue dans un coin salon. Tout Paris a voulu connaître cette princesse russe, du noble au banquier, en passant par les artistes. Elle veut tout connaître, voir les gens connus par leurs dons ou leurs noms. Lorsque Jean et Guillaume arrivent, ils sont reçus dans le hall d'entrée par le ministre des Finances, qui est son ami de corps du moment.
Je vous remercie d'être venu.
Et les fait entrer dans le grand salon, il y a déjà du monde.
Elle ne va pas tarder à descendre. Verrez, elle est exquise.
Au fond du grand salon se trouve un escalier de pierre recouvert de marbre rose. Guillaume dit à Jean, j'ai l'impression d'être à une soirée d'une de ces femmes entretenues qui jouent les mondaines et qui a eu comme éducateur Colthéâtre. Jean lui dit, les femmes du monde étrangères qui débarquent à Paris ont toujours des manières de femmes entretenues. C'est seulement après quelques mois de fréquentation des Parisiennes qu'elles deviennent vraiment des femmes du monde. Nous aurons dû attendre quelques mois. Ça aurait été dommage. Nous n'aurions jamais connu les premiers pas de cette princesse. Le temps passe. Les invités boivent, dégustent en attendant l'arrivée de la maîtresse de maison. Après une heure d'attente, il voit qui descend les escaliers d'une façon majestueuse, une femme grande, mince, blanche, habillée d'une robe blanche à satin qui lui moule le corps, un éventail à la main. Elle porte qu'un collier de perles. Les gens sont éblouis par cette apparition comme hypnotisée. Avant de descendre les 10 dernières marches, elle dit « Pardonnez-moi ce retard. J'espère que vous avez eu assez à boire. » Le ministre monte les dernières marches à sa rencontre. Les gens se groupent au pied de l'escalier pour être présentés. Le ministre fait les présentations, puis la soirée reprend. Durant la soirée, la princesse s'approche de Jean et Guillaume, qui sont debout à regarder danser. Jean la voit venir. Il est surpris par sa grâce, sa façon de marcher, de sourire. Elle lui dit, « Vous êtes monsieur Jean Lecoq. »« Jean Lecoq, ah oui, c'est vous qui vivez dans une roulotte. »« Non, pas tout à fait. J'ai une roulotte dans ma chambre. » Comme c'est original. Jean sourit. Vous écrivez des poèmes aussi, je crois.
Oui.
Et j'emploie une technique tout à fait nouvelle. L'inspiration par l'opium.
Ah, ça doit être intéressant.
Elle regarde Guillaume.
Ce jeune homme est avec vous?
Oui, Guillaume d'Argenteuil.
Vous vivez ensemble?
Non, mais nous sommes très liés.
Ah, je comprends.
La princesse doit Jean. Elle est extrêmement intéressée par lui. Parce que c'est un artiste, parce qu'il fume de l'opium,
parce qu'il est excentrique. Elle prend Jean par le bras et l'emmène avec elle. Il laisse Guillaume seul. La princesse dit à Jean, tout en marchant à son bras,
« Moi aussi j'écris, ce sont des romans fantastiques, des choses horribles. Venez, laissons ces gens et allons dans le salon, au premier. »
C'est ce qu'ils font et tout le monde les voit partir. Elle le fait monter au premier étage, pas par l'escalier principal, mais par un petit escalier, pour que ce soit plus intime. Suivre un couloir et le faire rentrer dans une pièce. De taille moyenne, meublé, Louis XVI. Elle le fait asseoir sur un fauteuil. Et s'assoit près de lui.
Je me sens très bien ici. Moi aussi j'ai ma pièce à moi. Il n'y a pas de roulotte. J'aimerais vivre dans une vieille demeure. Isolée. Immense. Avec plein de recoins. Très sombre. Où l'on croit voir un fantôme. J'adore les fantômes. Je vous ai dit que j'écrivais des romans en cachette la nuit. Ce sont des histoires de maris trompés qui sortent de leur tombe pour se venger. Ou de femmes amoureuses mais bien vivantes de fantômes. Ou de fantômes amoureuses de femmes. Enfin, vous voyez, en réalité, je suis passionné par le spiritisme et j'avoue que j'ai un penchant pour le morbide. Ce n'est pas l'opium qui m'aide à trouver mon inspiration, mais des drogues à base d'arsenic. Jean est surpris et de plus en plus fasciné par cette femme. Elle vient encore. Vous me plaisez. Parce que vous ressemblez à un de mes personnages. Je suis toujours amoureuse de mes personnages. C'est normal, c'est moi qui les crée. Jean, fasciné, voit les yeux de la princesse qui le regarde comme ceux d'un serpent. Il est hypnotisé. Elle se penche vers lui et lui dit « Je crois que nous allons très bien nous entendre. » Et elle l'embrasse sur les lèvres. Il ne résiste pas. Pendant ce temps, Guillaume reste seul à attendre. Il est furieux, il se demande ce qu'ils font. Jean commence à partir. Guillaume se dit qu'ils ne vont pas tarder à venir. Il faut qu'elle dise au revoir à ses invités. Les gens commencent à partir. Il attend jusqu'aux derniers invités. L'orchestre s'est tu depuis longtemps. Un valet éteint les lustres.
D'autres commencent à ranger. Il est obligé de partir.
D'horreur, furieux, il attend. Le jour se lève. Alors, il décide de partir, furieux, jaloux. En arrivant chez lui, il se couche, furieux. Le lendemain, il se réveille après un sommeil agité. Il est de mauvaise humeur, après avoir avalé son café. Il est 14h et décide d'aller chez Jean. Frappe à sa porte. Arrive en courant dans le couloir qui mène aux autres appartements de l'hôtel un valet de pied qui lui dit:
Monsieur, madame a entendu les coups que vous portiez à la porte de son fils. Elle vous fait dire que monsieur est entré très tard, d'une nuit agitée et a besoin de sommeil. Revenez demain en fin d'après-midi. Guillaume se retire, furieux.
Il décide de passer l'après-midi à l'université, mais il n'arrive pas à suivre ses cours. Ce sourd se réfugie chez lui. Jean lui manque, l'opium aussi. Il sent qu'il va être malade. Il s'asperge d'eau de Cologne et en boit une gorgée. Cela lui donne mal à la tête. Le lendemain après-midi, il va frapper à la porte de Jean. Qui lui a ouvert, le fait entrer. Mais ne l'embrasse pas, le fait asseoir sur des coussins à terre. S'assoit à ses côtés. Guillaume lui dit:
Je t'ai attendu à la sortie de la soirée.
Jean sourit et dit:
C'est la princesse, elle est délicieuse, nous avons passé la nuit ensemble.
Il regarde bien Guillaume et dit:
J'aime autant les hommes que les femmes. Ça vous surprend?
Non?
Elle est délicieuse, si vous saviez, et elle écrit divinement bien.
Cela fait mal à Guillaume. Il se dit que lui n'écrit pas divinement bien.
Jean n'a jamais dû le prendre au sérieux. Non, il n'a jamais dû me prendre au sérieux.
Et quant au reste, elle a de ses yeux un corps magnifique. Elle fait l'amour en débitant des vers sur la mort. Elle aime tout ce qui est morbide. Quelle femme! elle se nourrit, elle nourrit son âme de pilules d'arsenic.
Guillaume se sent petit, tout petit. Il a l'impression que Jean ne le voit plus. Ce n'est plus de la jalousie qu'il a, c'est un chagrin d'amour. Et ce vouvoiement qu'il a avec lui, comme ça, fait mal. Jean lui dit, sans vraiment le voir, « Il faut que vous me quittiez. Je dois me préparer. J'ai rendez-vous avec elle. »
Guillaume Penaud, « Nous nous reverrons quand ?»«
Je ne sais pas. Je vous le ferai savoir. »
Jean se lève.
Guillaume ne peut faire autrement que se lever lui aussi. Il se dirige vers la sortie.
Au revoir, mon petit Guillaume.
Et Guillaume se retrouve dehors, perdu, seul, sans l'être aimé, sans opium. Il se sent affreusement seul, seul. Marche dans les rues, au hasard.
Durant une semaine, une longue semaine, où il a tenu le coup comme il a pu, malade par manque d'amour et d'opium, les fourmis dans les membres, le ventre qui se tord, mal à la tête, l'âme en peine, le cafard.
L'âme en peine, envie de vomir, mourir. L'instinct de conservation le force à aller chez Jean. Pas de réponse. Il retourne plusieurs fois. Guillaume est furieux. Il tape du poing sur la porte.
Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez !
La porte s'est ouverte d'un coup. Jean furieux lui dit :
Mais que faites-vous, Guillaume ?
Je suis chez moi, j'ai le droit de recevoir qui me plaît. Je vous prie de déguerpir et de ne plus mettre les pieds ici.
Mais...
Essaye de protester Guillaume. Jean ferme la porte d'un coup. Il ne lui reste plus qu'à s'en aller.
Guillaume en manque
souffre et se terre dans sa chambre. Il est dans un état déplorable, maigri, se tient, se retient pour ne pas crier. Ce n'est pas de douleur physique qui souffre, mais d'amour. Dans ses moments de lucidité, il sent une injustice. Jean a tout fait pour que je sois à lui, dépendant de lui. Il m'a même habitué à l'opium et maintenant il me laisse tomber. Par sa faute, je vais crever de manque. Ces journées ne sont plus qu'un brouillard. Une chose diffuse. Diffuse. Il ne sait plus où il est, ni si c'est le jour ou la nuit. Ni si c'est le jour ou la nuit. Sont inquiets de le voir des journées entières dans sa chambre. Ils ont demandé le médecin qu'il a ausculté. Le médecin ne dit rien, prescrit des médicaments contre la douleur, un peu d'opium et de le faire boire des jus de fruits souvent dans la journée. Après une semaine de traitement, Guillaume va mieux. Il peut se lever et sortir de sa chambre. Son père ne lui pose pas de questions. Il pense qu'il doit avoir une tumeur maligne à l'estomac ou au foie parce qu'il le voit souvent vomir. Et pense que le médecin n'ose pas dire la vérité à la famille de peur de leur faire de la peine. Malgré tout, un mois passe et Guillaume est complètement guéri. Ou semble complètement guéri. Pas, c'est que Jean est à Naples avec la princesse.
Amerigo.
Non si può stare.
Mademoiselle? Mademoiselle! Au salon! Oui, voglio. A questo.
very good. Ecco. Là. Sei bellissimo così.
Via, vattene via, farabutto caro.
Ma che vuoi, ma chi ti ha dato noia?
Chi ti ha dato noia? Ma vale a fanantra sti scherzi.
Ma chi ti credi adesso?
Amerigo, buttala fuori sta carogna, figlio d'una...
Oh, 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 giù le mani, state game, e vo' via da me. Accidenti a quando ci sono venuto.
Meno male che ora ci abbiamo Amerigo.
Après plusieurs semaines, où ils ont eu une vie assez dissolue, sont allés dans des endroits les plus incongrus, vu des gens les plus bizarres de tous les milieux, sont allés de partout, même où il ne faut pas aller. Ils se retrouvent, lui, Jean et la princesse, dans une chambre d'hôtel. La princesse a eu depuis plusieurs jours des vomissements. Un froid glacial, incompréhensible, est tellement gelé que ses mains sont blanches et transparentes. Les vomissements ne s'arrêtent pas. Les médecins ne comprennent pas. Le médecin demande à Jean si elle ne prenait pas régulièrement quelque chose.
Oui, des pilules à base d'arsenic.
La princesse s'est apaisée maintenant. Elle est dans son lit. Jean lui tend les mains. Elle les prend. Elle dit d'une voix faible :
Je sens le froid de la mort. Gardez mes écrits.
Et elle meurt. Jean est effondré. Semaine plus tard, après l'enterrement, il est de retour à Paris avec dans ses bagages les écrits de la princesse. Deux mois plus tard, au bal de l'opéra, Guillaume retrouve Jean. Il hésite à dire bonjour. Jean va vers lui et l'embrasse sur la joue.
Bonjour Guillaume, je suis heureux de te revoir. J'ai beaucoup souffert, tu sais.
Moi aussi. Guillaume croit qu'il parle du même objet de souffrance, de leur séparation. Ils sont émus tous deux et restent ensemble pour le bal. Regardent les gens danser et se moquent d'eux.
Pourquoi la n'as-tu pas mis le collier que je t'ai envoyé?
J'ai peur que ça se remarque. Et puis, mon frère étant le chef de famille, c'est sa femme qui devait avoir l'honneur de le porter le premier soir.
Avec qui danseras-tu la deuxième danse?
Avec personne. Après vous, je ne danserai plus jamais avec personne.
Après le bal, Jean emmène Guillaume chez lui et passe la nuit ensemble, nuit d'amour et d'opium aussi. Guillaume guéri retourne sous la coupe de Jean avec la complicité de l'opium. Mais le bonheur des retrouvailles est là. Le temps passe. Janvier 1851, morcellement du commandement de Jean Garnier, royaliste, chef de la garnison de Paris. Juillet 1851. Échec devant l'Assemblée d'une proposition du président qui désirait la prolongation de ses pouvoirs au-delà de son mandat de 4 ans. Août 1851, proposition du président d'abroger la loi électorale du 31 mai 1850, repoussée par l'Assemblée. Louis-Napoléon Bonaparte se pose en défenseur du suffrage universel.
Ayez l'œil. Vous devez vous attendre à tout ce soir. Mettre baïonnette au canon. C'est un ordre. Baïonnette au canon.
Décembre 1851, coup d'état réalisé par Morny, ancien orléaniste. Pierre Cavaignac en prison.
Faites dans cette impasse, j'ai dit de se tenir au carrefour. Soyez prêts, tout concorde. Il risque d'y avoir du grabuge. commandement. Reposez. Ah !
Desjardins. C'était donc cela.
RC avait pas dit de le baïonner.
Ah, c'est de sa faute. Il arrêtait pas de poser des coups.
Dis-moi, c'est à quelle heure au juste?
Pas avant le jour, c'est la loi.
Décembre 1851, fusillade des boulevards, 100 morts, mouvement de protestation. L'aspect social des révoltes favorise le ralliement de la bourgeoisie au bonapartisme. Le 21 décembre 1851, plébiscite approuvant le coup d'État. Le temps passe.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la 6e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.